Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie se réjouit d'entretenir depuis des années des relations privilégiées avec cette institution mondialement implantée depuis plus de 125 ans, l'Alliance française. Nous avons suivi avec grand intérêt le 31e colloque de l'Alliance française qui s'est tenu en janvier à Paris et que nos auditeurs trouveront sur notre antenne d'ailleurs en médiathèque. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un des piliers de l'Alliance française en France, Dominique Vague, directeur de l'Alliance française à Rouen, en Normandie. Dominique Vague, bonjour.
Bonjour.
Alors, cela paraît pour certains un peu étrange. Oui, il y a aussi des alliances françaises en France. Je sais qu'il y a une alliance française à Marseille et où encore dans d'autres villes.
Oui, effectivement, dans la grande famille des presque 1100 comités à travers le monde, nous avons 26 comités en France, dont 12 comités possèdent des écoles. Donc vous évoquiez à l'instant Marseille, mais il y a aussi Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Dijon, Saint-Malo. Et Paris, bien entendu, qui est l'alliance qui a précédé toutes les autres.
Oui, et qui est maintenant devenue la fondation Alliance française et qui centralise donc un peu tout le fonctionnement des alliances françaises dans le monde, si j'ai bien compris.
Oui, la fondation, effectivement, s'occupe de gérer un réseau de plus en plus important à travers le monde et d'accueillir nos 400 000 apprenants annuels de français.
Combien nos 400 000 ? Ça impressionne. Alors, la question se pose quand même, ou pouvez-vous peut-être expliquer cela à nos auditeurs ? Quelle est la raison et le but de votre implantation dans un pays dont la langue maternelle et paternelle, on peut dire, est le français. Quelle est en quelque sorte votre spécificité ?
À l'origine, d'abord, il y a un peu plus d'une centaine d'années, les Alliances françaises de France s'étaient créées comme des organismes destinés à financer et à aider l'œuvre générale initiée par l'Alliance française de Paris à travers le monde. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les alliances françaises de province se sont recréées soit comme des centres culturels, soit comme des établissements d'enseignement. Et cette mission était rendue nécessaire par l'arrivée dans notre pays, dans les villes universitaires, d'un certain nombre d'étudiants étrangers pour lesquels nous représentions une main tendue de la France, peut-être, ou un cœur ouvert de la France pour leur faciliter la vie quotidienne, que ce soit au niveau du logement, au niveau des rencontres avec les Français, au niveau de leurs formalités universitaires ou administratives. Et de proche en proche, cette mission s'est continuée et a abouti à fonder des écoles spécialisée dans l'enseignement du français comme langue étrangère. C'est-à-dire que, à la différence d'autres formules, les alliances françaises n'enseignent que le français, à la fois dans des cours généraux et dans des cours thématiques dont nous reparlerons un petit peu plus tard.
Oui, absolument. On rentrera un peu plus dans le détail du fonctionnement. Et pour l'instant, donc, on va faire une présentation, disons, générale. Et j'aimerais bien que vous nous fassiez une sorte de carte postale de votre belle Normandie. On connaît les vaches grasses et le bon lait normand. Et en dehors de cela, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme carte postale de Normandie ?
La Normandie est une région qui a l'avantage d'être à la fois une région historique ancienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux régions de programme, Haute et Basse Normandie, épousent presque exactement la carte de la Duché d'Ancien Régime, comme l'on disait autrefois. Mais en même temps, c'est une région très très diverse, tant sur le plan des paysages que sur le plan des activités. Paysages avec un plateau calcaire à l'est, avec des plaines à l'ouest tendant vers un domaine granitique lorsqu'on approche de la Bretagne, et activité avec une région très fortement industrialisée sur la vallée de la Seine à l'est, et donc une région avec de l'industrie plus légère et beaucoup de services dans la partie occidentale. Et par-dessus tout, une activité agricole encore très très importante.
Ça, c'est évidemment l'image d'Épinal que nous connaissons tous très très bien. Et puis vous évoquiez évidemment le côté culturel de la Normandie. Il y a d'ailleurs une basse et une haute Normandie, n'est-ce pas ? Et Rouen se situe où ?
Donc Rouen est le chef-lieu de la Haute-Normandie, de la Normandie orientale. Aujourd'hui, on parle peut-être d'une réunification à terme de ces deux régions. Et la base culturelle, de toute façon, est une base qui est marquée par une tradition d'accueil depuis très très longtemps, puisque notre nom, le nom de notre province vient des Vikings, des hommes du Nord. Et ces Vikings, une fois arrivés chez nous, sont très vite repartis aussi pour aller visiter un certain nombre d'autres lieux dans le monde, à tout le moins le Groenland, peut-être l'Amérique du Nord, en tous les cas la Sicile, l'Italie du Sud, la Terre Sainte. Donc nous avons toujours eu à la fois la tradition d'accueillir nos amis qui venaient de loin et de les renvoyer pour aussi aller porter notre présence ailleurs.
Et puis la cathédrale de Rouen est très très connue quand même.
Oui, la cathédrale de Rouen est un des monuments phares vraiment de notre ville. Et non seulement par son architecture, mais aussi par le fait que l'un des plus célèbres peintres, Claude Monet, s'est attaché à la reproduire une quarantaine de fois. Et si, voici maintenant 15 ans, nous avons pu voir toutes les représentations de la cathédrale de Rouen par Monet réunies dans une exposition, l'année prochaine, l'agglomération de Rouen prépare une très très grosse exposition sur la Normandie impressionniste qui se tiendra à Rouen et aux environs de Rouen pendant un grand été 2010.
Oui, parce qu'il n'y avait pas que Monet, il y avait aussi les Fauves, je crois.
Oui. Autour de Monet, déjà tous ses amis, puisque l'impressionnisme est très étroitement lié à la vallée de la Seine, des gens comme Pissarro, mais aussi Renoir. Renoir, on le voit toujours oui. En Provence, mais il est venu finalement beaucoup travailler aussi à côté de son ami Monet en Normandie. Nous avons de temps en temps des œuvres qui sont peintes par les deux hommes côte à côte au même endroit. Donc Caillebotte venait de temps en temps. Sisley a beaucoup résidé aussi dans la région rouennaise. Donc tous ces gens ont illustré la Normandie vraiment en de très nombreuses occasions.
Oui, et vous participez à l'organisation de cette exposition ?
L'Alliance française de Rouen, non, pas directement, mais nous allons de toute façon être très très proches et faire participer nos étudiants à cette très très grande manifestation.
Ben, on invite déjà d'ores et déjà nos auditeurs, qui sont évidemment pour une web radio dispersée dans le monde entier, à prendre cette occasion pour faire une visite en Normandie, enfin en France et en Normandie en particulier. C'est donc à quel moment cette exposition vraiment qui semble être fort intéressante ?
Ce sera un grand été 2010, donc cela devrait commencer aux environs du mois d'avril et se prolonger jusqu'au mois de novembre, puisque l'été en Normandie dure presque toute l'année.
Ah oui, ah ben ça c'est une autre raison, une bonne raison pour venir. Et un autre sujet peut-être aussi qui est très intéressant, quels sont vos liens avec les autres alliances françaises dans le monde et aussi en France d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'alliances françaises en France également ?
Donc depuis quelques années, pour ce qui concerne les alliances françaises de France, nous avons pris l'habitude de travailler en commun et de réfléchir un petit peu à la fois à notre développement qualitatif et puis à la recherche de partenaires dans le monde. Et puis pour ce qui concerne les alliances à travers le monde, nous avons des gens que nous connaissons plus particulièrement dans tel ou tel coin de différents pays. Et pour ce qui est de l'Alliance française de Rouen, par exemple, nous avons actuellement des liens avec des alliances en Italie. Je voudrais parler de Padoue, de Foligno, de Reggio Calabria.
Extraordinaire.
Nous avons des liens aussi avec l'Alliance française de Madrid. Nous avons des liens avec l'Alliance française de Denver aux États-Unis. Et l'Alliance française de Cambridge en Grande-Bretagne aussi est une alliance qui nous est très, très chère, très
C'est-à-dire,
proche.
Dominique Vague, vous voulez dire, vous, votre alliance française à Rouen, hein, tout ce partenariat ou tout ce jumelage avec toutes ces villes ?
Oui, ce sont des jumelages, je dirais, d'alliance à alliance, c'est-à-dire que partageant ensemble la même passion, partageant la même idée du français, nous avons décidé de nous réunir, d'unir nos forces, de nous visiter le plus souvent possible.
Ah oui, et réunir vos forces, c'est-à-dire vous faites des échanges de...
Exactement, oui, nous avons
professeurs,
des
éventuellement,
échanges de professeurs, nous avons aussi... des échanges d'étudiants.
Oui.
Nous accueillons de façon prioritaire, je dirais, un petit peu des étudiants venus de ces régions-là.
C'est-à-dire les meilleurs élèves, on rend peut-être un bonus pour aller visiter une alliance, je ne sais pas moi, à Denver ou à Reggio di Calabria.
Qui sait
selon leur capacité linguistique ou en tout cas leur bon point. D'accord. Bon, écoutez, après cette présentation générale, nous allons marquer une courte pause avant de parler plus en détail du fonctionnement de l'Alliance française à Rouen.
C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Dominique Vague, le directeur de l'Alliance française à Rouen, est venu dans nos studios pour nous faire connaître son alliance à Rouen, en Normandie, je précise pour tous les étrangers qui nous écoutent. Donc, votre alliance, Dominique Vague, elle est située au cœur des villes, parce que vous avez aussi une antenne au Havre, mais on en parlera tout à l'heure peut-être. Alors, elle est située au cœur donc des villes ou dans les environs. Racontez-nous un peu, faites-nous un tableau de votre institut.
Alors, l'Alliance française de Rouen, en Normandie, donc, est située en plein centre de la ville pour le moment, dans un très très beau bâtiment de style néoclassique, construit en 1840, que vous pouvez encore voir pour quelque temps sur notre site internet, puisque nous allons déménager et nous changeons un petit peu d'époque, puisque nous allons dans un bâtiment de style Art Nouveau. Début du XXe siècle.
Ah ben c'est pas donc mal non plus.
Ce n'est pas mal non plus. Il y a toujours, lorsque nous parlerons des cours, je vous en ferai un petit détail, un aspect lié à la culture et à l'histoire de l'art dans notre démarche. Alors cette nouvelle école qui va exister à Rouen à partir du mois de mai, juin au plus tard, se situera juste à côté de la gare SNCF, donc on ne pourra vraiment pas rater l'école de l'Alliance française de Rouen. Et quant à l'école de l'Alliance française du Havre, elle est aussi en plein cœur de la ville. Pour les gens qui connaissent cette ville du Havre, c'est au pied de l'église Saint-Joseph avec sa tour qui est le point culminant de la ville. Une église très très moderne, reconstruite dans les années 1945-50.
Il y a des étudiants étrangers, bien sûr, en grand nombre. Et y a-t-il des possibilités d'hébergement pour ces étudiants étrangers? Et quelle est votre capacité d'accueil en général?
Voilà, donc cela fait vraiment partie de notre service aux étudiants étrangers, c'est-à-dire que lorsqu'un étudiant étranger vient pour apprendre le français chez nous pour une période plus ou moins longue, en très grande majorité, il a besoin aussi d'un hébergement. Donc nous proposons un système avec des familles d'accueil qui peuvent offrir à peu près 120 places tout au long de l'année et qui assurent une véritable vie à la française. Parce que effectivement, on peut apprendre le français n'importe où, on peut même apprendre le français sur un ordinateur tout seul devant son écran, mais je crois que rien ne remplace le fait de partager ce français avec les habitants.
Certainement. Et donc, il y a une vie collective. Et comment ça se passe
Pour gérer cette école de l'Alliance française de Rouen, il y a d'abord une association Alliance française. Comme partout dans le monde, nous fonctionnons selon les modèles d'une association. Et tous les gens qui interviennent autour de l'Alliance française sont des associés, sont des membres de cette association. Nous avons un comité, un conseil d'administration et un certain nombre de bénévoles qui viennent nous aider. Donc, les familles accueillent les étudiants. Ça, c'est jusque-là, je dirais, pratiquement quelque chose d'ordinaire, mais aussi participent à la découverte du pays, emmènent leurs étudiants visiter des expositions, participent à des concerts, organisent des soirées de cuisine où ce ne sont pas simplement des Français qui font la cuisine, mais aussi des étrangers qui apprennent aux Français leurs recettes ou qui les interprètent avec les produits français. Ça peut donner des résultats parfois assez amusants. Et donc, nous avons comme ça énormément d'activités que j'appellerais des activités sociales autour du français. C'est-à-dire que apprendre le français, encore une fois, c'est quelque chose qui est relativement commun, mais ajouter tout ce que nous mettons autour de cela, c'est
peut-être
vraiment
l'essentiel.
Peut-être l'essentiel, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui permet de vivre le français au quotidien.
Absolument. C'est donc vivre l'utile et l'agréable, si je comprends bien, en même temps. Mais ça nous amène tout droit au financement, parce que vous parlez de familles d'accueil. Donc ces familles, j'imagine, sont quand même rétribuées, qu'il y a les frais d'hébergement.
Oui, les familles, dans la grande majorité des cas, assurent un hébergement en demi-pension pour les étudiants et rendent parfois même quelques autres services. Et tout cela, bien entendu, a un coût. Il y a donc un défraiement par rapport à ce système-là. Oui.
Que payent les étudiants?
Que payent les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent chez nous sont dans le cadre d'un établissement d'enseignement privé. Ils payent leur droit à décollage et ils payent leur hébergement. Alors ce système d'hébergement en famille, bien entendu, est incomparablement moins cher et plus sécurisant qu'un hébergement à l'hôtel, puisque non seulement nous nous assurons, en particulier pour les plus jeunes des étudiants, qu'ils vont pouvoir avoir au moins 2 repas chauds par jour, oui, qu'ils vont avoir une présence, un référent, quelqu'un qui est toujours là pour leur rendre service si jamais ils en avaient besoin.
Oui, mais c'est presque idéal comme structure pour les deux parties, parce que voilà, aussi pour les familles, d'abord ça leur fait augmenter un peu leur fameux pouvoir d'achat, n'est-ce pas ? Il doit être un peu important quand même pour des familles en province, avoir une sorte de bed and breakfast, en français c'est chambre d'hôte, je crois,
oui, oui.
Voilà, une chambre d'hôte toute l'année.
Alors ce système est tellement idéal que je me suis dit que lorsque je serai en retraite, j'irai moi-même apprendre une langue dans un pays étranger avec ce système-là.
Ah oui, et laquelle, si c'est pas indiscret, le chinois?
Très certainement l'italien.
Mais je crois savoir que vous parlez déjà un peu italien, et peut-être pas mal d'ailleurs. Et d'ailleurs, à propos, quel est le pourcentage des étudiants qui viennent chez vous, à Rouen en particulier, ou au Havre, par rapport aux nationalités ou au pays ?
Alors, par rapport aux nationalités, donc la majorité, pour le moment, ce sont des étudiants japonais. Le groupe plus nombreux, ce n'est pas la majorité, le groupe le plus nombreux représente à peu près 20% d'étudiants japonais.
Ben, ils viennent de loin.
Bien sûr, et ils viennent pour des périodes qui vont de 4 à 6 semaines, parfois pour beaucoup plus longtemps, parce que c'est quelque chose qui sous-tend toujours un petit peu mon raisonnement que de dire que nous ne savons jamais combien les étrangers nous aiment et combien les étrangers ont une envie de France. Nous y reviendrons. Et après les Japonais, donc, nous avons à peu près 15% d'Italiens, 12% d'Espagnols, beaucoup de gens en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Voilà. Et après, tous les autres pays qui représentent des groupes numériquement moins nombreux, mais tout aussi important.
Et qu'est-ce que ça peut coûter à un étudiant, par exemple, pour un mois ?
Pour un mois, l'étudiant va débourser, oui, en dehors des frais de voyage, à peu près 1 000 euros.
Par mois ? Bah, écoutez, je trouve ça extrêmement raisonnable pour la personne, enfin en général jeune, je suppose quand même. La moyenne d'âge est de, à propos ?
La moyenne d'âge a tendance à monter. Nous sommes arrivés maintenant à presque 28 ans, alors que nous avons eu pendant très longtemps
très
une
jeune,
moyenne
quand même,
à 26 ans.
Voilà. On va vivre jusqu'à 100 ans, donc 28 ans, c'est l'adolescence.
Et ce qui nous touche énormément, c'est aussi d'accueillir de plus en plus de gens, je vous parlais de la retraite tout à l'heure, de gens qui sont des jeunes retraités et qui décident justement d'aller faire un séjour linguistique chez nous. Et c'est vrai que c'est vraiment très très important de pouvoir accueillir ces gens qui ont peut-être gardé enfoui leur désir de France et de français pendant toute leur carrière professionnelle et puis arrivés à l'âge de la retraite, se disent « Allez, maintenant je suis libre, je peux aller apprendre le français ».
C'est vraiment très, très enthousiasmant. D'ailleurs, je dois vous confier, cher Dominique Vague, que chaque fois que j'ai fait un entretien avec un des représentants de l'Alliance française, nous en avons fait déjà un certain nombre, on rencontre cet enthousiasme foncier. Vraiment, je crois que tout le monde adore participer à cette belle aventure qu'est l'Alliance française. Oui, je disais tout à l'heure que pour les jeunes, donc, c'est vraiment un énorme profit parce qu'on sait que les voyages forment la jeunesse et même quand on commence à prendre sa retraite et on recommence à voyager, donc à redevenir jeune, c'est formidable. Et puis, sur le plan pratique encore, vous pouvez peut-être nous dire comment se passent les cours. Combien d'heures par jour, combien d'élèves par classe, quelle méthode d'enseignement vous privilégiez ? J'imagine audiovisuel minimum, mais peut-être il y a aussi une certaine rigueur qui s'impose pour bien apprendre le français, ou est-ce que c'est secondaire ? Parce qu'on entend du pour et du contre pour cette rigueur, comme le français est une langue très très difficile à apprendre. J'ai déjà entendu des voix, notamment lors du colloque, du dernier colloque, qu'on pourrait peut-être commencer par apprendre un français un peu moins rigoureux.
Je me placerai sur deux plans. D'abord sur le plan de l'équipe enseignante, qui est constituée exclusivement de gens très affûtés, qui ont à la fois une expérience ancienne, longue, et une formation importante. Et certains de nos enseignants, par exemple, ont passé des périodes très très longues en poste à l'étranger et ont donc acquis un certain nombre de méthodes, justement, qu'ils peuvent réinvestir dans leur enseignement. C'est une première chose. Du côté du français en lui-même, nous insistons quand même sur la rigueur du français. C'est peut-être lié à notre personnalité, à notre âge, mais simplement, il n'est pas question de se relâcher sur le français. Ça veut dire que nous avons effectivement le français quotidien, nous apprenons ce français parlé, nous avons de temps en temps des études sur les niveaux de langue, sur des langues professionnelles ou voire des langues un petit peu différentes. Mais de toute façon, la base reste toujours une base rigoureuse. Et cela nous est un petit peu imposé de temps en temps par certains étudiants. Je pense par exemple aux Asiatiques qui arrivent avec une formation théorique en français extrêmement pointue, qui possèdent la grammaire française et nous oblige même parfois à nous interroger sur tel ou tel point.
La concordance des temps, voilà. Les subjonctifs, les conditionnels.
Tout ça, c'est très très bien connu et il faut simplement que nous mettions en musique cette portée qu'il possède déjà, vous voyez. Et c'est vrai que je crois aussi que la langue française a été fixée depuis maintenant 4 siècles de façon, je dirais, formelle dans cette maison. Et il est important de continuer, à mon avis, à conserver cette langue telle qu'elle est, parce que sinon, ça ne serait plus le français. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, aussi de dire, ben voilà, dans telle ou telle circonstance, vous avez telle ou telle expression qui peut remplacer.
Bien sûr, les expressions changent, voilà. Ça, je crois que ce n'est
bien
pas
entendu,
en contradiction.
Nous n'allons pas non plus revenir à des formes que l'on trouvait dans les manuels de savoir-vivre du début du XXe siècle, mais nous avons quand même gardé l'histoire de la correction grammaticale et orthographique.
Mais quand vous dites que les Asiatiques en général, ou les Japonais en particulier, arrivent déjà avec une bonne connaissance, avec des bonnes bases, vraiment, ils n'ont pas trop de mal en un mois ou deux mois à leur redonner cette musique que vous venez d'évoquer, cette musique de la langue.
Oui, alors c'est effectivement, c'est une des difficultés auxquelles nous heurtons, parce que bien entendu, ces étudiants japonais, par exemple, qui sont venus avec une formation grammaticale pointue, n'ont pas eu l'habitude de parler la langue. Et s'ajoutant une certaine timidité, une certaine retenue à cela, eh bien, ça rend parfois un petit peu difficile leur apprentissage. Mais en règle générale, ça s'arrange assez rapidement.
D'accord. Et vous donnez aussi des cours de civilisation, je suppose.
Exactement. Donc, chaque jour, nous proposons à nos étudiants 3, 4 ou 5 heures de cours de base, donc des cours généraux à raison de 3 heures.
Chaque jour 3 à 5 heures oui. De cours de civilisation.
Non, 3 heures de cours généraux de français, au cours desquels on explore tous les domaines de la compréhension écrite, orale, l'expression écrite, orale, vocabulaire, grammaire. Et puis, nous avons 1 heure l'après-midi en approfondissement et encore 1 heure en français thématique. Donc c'est à cette occasion-là que nous pouvons donner des cours qui sont des cours plus liés à la civilisation. Et par-delà cela, sur demande, lorsque nous avons des groupes qui le souhaitent, nous organisons aussi des sessions qui sont des sessions avec du français de spécialité. Le français des affaires, qui nous est de plus en plus demandé, en particulier par des jeunes gens qui vivent dans des pays où les entreprises françaises se sont implantées et pour lesquels ça représentera un atout vraiment de pouvoir posséder du français. Nous assurons aussi chaque année un stage qui s'appelle « Peinture et histoire de l'art », au cours duquel un peintre professionnel prend nos étudiants et enseigne un petit peu de peinture, plus les cours d'histoire de l'art, plus les visites sur les lieux de l'impressionnisme, puisque nous sommes en pleine terre. Nous avons aussi, sur demande, des cours qui sont spécialisés dans le domaine militaire. Nous avons formé pendant très longtemps des cadres des différentes armées européennes. Ça nous arrive encore aujourd'hui. Nous avons aussi formé des étudiants en médecine qui voulaient rejoindre le système universitaire français et qui avaient besoin du français de la médecine. Donc toutes ces compétences ont été mises en œuvre et restent disponibles.
Ça fait vraiment une très très riche activité.
Ça fait une très riche activité avec, je dirais, une équipe tout à fait enthousiaste et justement avec la possibilité de toujours reprendre sur le rayon de la bibliothèque cette activité qui a été travaillée une fois et qui est remobilisable assez rapidement.
D'ailleurs, sur votre site internet, on peut lire dans votre présentation que, je cite, votre équipe vous fait partager sa passion de la langue et de la culture française, donc depuis sa création en 1981, en ce qui vous concerne. Et je me demande, cela tient à quoi cette passion ? Qu'on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut la sentir dans chaque entretien avec les représentants de l'Alliance française. D'où vient-elle cette passion pour transmettre la langue et la culture française ?
Elle a deux origines. La première, je dirais que c'est une certaine fierté de ce que nous sommes. Et contrairement à un sentiment ou à une expression française assez répandue. Nous, nous sommes assez contents d'être français. Nous sommes même fiers de notre pays, notre région. Donc, nous désirons partager, bien sûr, ce que nous aimons avec nos amis. Et puis, surtout, la deuxième chose, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que un certain nombre d'étrangers partout dans le monde manifestent un tel amour de la France et du français que ça serait quand même la dernière des choses à faire que de les décevoir. Et je pense aujourd'hui, véritablement, en voyageant beaucoup, en rencontrant énormément d'étudiants, certes je me déplace, mais aussi en voyant passer 600 étudiants tous les ans dans mon bureau et en parlant pratiquement avec chacun d'entre eux, je réalise combien ces gens vouent un amour à la France et à la langue française. Nous avons pour chaque étudiant un questionnaire de satisfaction qui doit être rempli à la fin du séjour. Et à chaque fois, c'est vrai que nous ne pouvons que constater justement l'intérêt et l'approfondissement humain que représente cette rencontre chez nous.
Vraiment, on a envie de redevenir étudiant en français et de passer quelques temps à l'Alliance française de Rouen, par exemple. Mais je pense que dans d'autres alliances, c'est la même chose. Oui. Et quel esprit est transmis à vos étudiants ? Alors, c'est peut-être un peu provocant, mais est-ce que c'est beaucoup, un peu ou pas du tout politiquement correct ? Est-ce que vous transmettez la France avec son passé glorieux ou la France moderne, dynamique ou la France humaniste ou la France culturelle ou la France un peu classique dans le sens que nous sommes pays des droits de l'homme et
Je crois que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question juste avant, justement en vous disant que tout ce qui fait la qualité de notre pays nous semble important à transmettre. Je dirais aussi que nous avons peut-être chez nous une vision un peu plus positive de la France et de son avenir. Je me souviens qu'il y a longtemps, nous insistions surtout sur les aspects noirs, une sorte d'auto-flagellation.
Même dans les alliances ?
Non, dans les alliances, mais en France en général. Nous avions toujours tendance à nous dénigrer en tant que Français.
Ça n'a pas trop changé par les temps qui courent.
Mais chez nous, non. De toute façon, c'est vrai que nous ne voyons pas tout avec des lunettes roses, bien entendu. Nous sommes capables de parler de tout. Mais je crois quand même que si les gens viennent et qu'ils ont ce désir de France, il s'agit aussi de montrer que c'est une bonne chose.
Oui, c'est un amour partagé, si j'ai bien compris.
Voilà.
Oui. Et quel est d'ailleurs le domaine que vos étudiants en général préfèrent en France ?
Ce qu'ils préfèrent, d'après les enquêtes auxquelles ils répondent à la fin de leur séjour, pour une grande partie d'entre eux, il y a tout ce qui est la culture française au sens large du terme, c'est-à-dire non pas simplement une culture un peu ancienne et étriquée. Peu d'entre eux finalement connaissent des écrivains contemporains, voire même des écrivains du 19e siècle, mais le fait de rencontrer le cinéma français, d'aller au théâtre, le fait de voir que bon, nous sommes dans un pays où on fait de la musique, où il y a encore des peintres vivants, qu'on peut les croiser dans la rue, enfin chez nous, voilà, bien sûr. Donc tout ça fait vraiment tout un ensemble. Et puis en deuxième partie, je dirais, ça fait aussi partie de la culture, tout ce qui est gastronomie française. Nos étudiants sont aussi très attentifs dans les familles, par exemple, à la qualité, la variété et l'intérêt culinaire pour eux des repas. Certains de nos étudiants repartent avec des collections de photographies de tout
avec
ce qu'ils ont mangé.
Avec 10 kilos de plus.
Oui. Mais aussi, vous savez, vous pourrez voir ça. Beaucoup d'étudiants photographient leur assiette à chaque plat pour montrer le...
Et c'est très japonais.
Pas seulement japonais. Et nous avons vraiment un intérêt pour les étrangers à tout ce qui fait vraiment la spécificité française.
Donc j'imagine que vous organisez des activités collectives, par exemple des excursions pour visiter un peu la...
Voilà, donc puisque nous sommes dans une région très
normande,
voilà.
ou un château, ou une église, ou faire un concours gastronomique, pourquoi pas, ou des conférences, ou des concours littéraires. Enfin, j'imagine que...
Exactement, oui, nous sommes dans une région très, très riche. Donc, une fois par quinzaine, nous proposons une visite guidée de la ville. Une fois par mois, une visite au Mont-Saint-Michel, qui est quand même un des monuments phares. Sur demande, de temps en temps, nous venons jusqu'à Versailles et Paris pour nos étudiants, et puis tous les autres lieux comme Étretat, Honfleur, Giverny, qui font aussi partie de notre environnement proche. Une fois par mois, nous faisons de façon fixe, je dirais, une soirée cuisine où on va faire le marché, composer sa recette, faire le marché, préparer et partager le repas. Deux fois par mois, une dégustation de vin français. Nous n'avons pas de vin en Normandie, mais nous en faisons venir. Et tout ça fait vraiment partie de ce que nous donnons aux étudiants lorsqu'ils viennent.
Donc, vous êtes le directeur, donc j'imagine que vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de loisirs pour faire autre chose que de vous occuper de vos étudiants, enfin de votre institut. Mais vous avez quand même beaucoup de collaborateurs, parce que sinon, avec tout ce que vous nous avez raconté, c'est énorme comme tâche.
Voilà, donc l'équipe administrative se compose de 4 personnes. Et,
4 personnes seulement.
Oui. Et l'équipe pédagogique varie selon les saisons de 8 à 15 enseignants.
Non, mais et semble à côté très
de,
peu.
Oui, mais nous avons aussi un réseau de bénévoles qui est là à côté de nous et qui.
Oui, avec les familles. Aura,
voilà, et
comprises.
Puis qui va encore plus travailler dans les temps à venir puisque nous allons déménager, donc il y aura un petit peu plus de bras requis à ce moment-là.
Ah, quoi. Oui. Bon, écoutez, je vous propose de marquer une deuxième pause avant de parler du développement à l'extérieur de l'Alliance française de Rouen. Avec nous, Dominique Vague, directeur de l'Alliance française à Rouen, que j'invite à nous exposer ses différents projets et réalisations extramuros de Rouen. On sait que vous avez créé une deuxième alliance dans votre région, une antenne au Havre. Comment vous en avez eu l'idée et l'initiative? Avec quels moyens et quelles activités spécifiques?
La création de l'antenne de l'Alliance française au Havre est partie d'un constat très simple. C'était qu'un certain nombre de Havrais désiraient venir étudier chez nous. Et quand je dis des Havrais, le Havre est une ville extrêmement ouverte sur l'étranger. Et
par son port
et réside dans cette ville beaucoup d'étrangers, parfois qui sont étudiants, parfois qui sont travailleurs, parfois qui sont conjoints de Français. Et c'était relativement compliqué de leur demander de faire deux fois une heure et demie de train, plus les délais d'attente, etc. Donc nous sommes allés voir le maire du Havre et nous lui avons demandé s'il était prêt à accueillir une antenne de notre alliance dans sa ville. Et non seulement il était prêt, mais il a mis à notre disposition gracieusement deux grandes salles en plein centre-ville pour accueillir nos activités. Et la municipalité du Havre continue à avoir vraiment un œil très, très bienveillant sur nos activités, à nous intégrer un petit peu dans sa politique internationale.
Donc vous avez recruté de nouveaux professeurs ou vous détachez vos professeurs de Rouen au Havre ou comment ça se présente ?
Il y a eu un professeur qui travaillait à Rouen et qui est parti maintenant au Havre à plein temps et qui, de temps en temps, est renforcé par d'autres professeurs lorsque le nombre des étudiants est important. Il y a à la fois un volume et une qualité d'activité très importante dans cette ville du Havre.
Et d'ailleurs, de qui sont payés les professeurs ? Par l'éducation nationale ?
Absolument pas. Comme on disait sous l'Ancien Régime, le roi doit vivre du sien, eh bien l'Alliance française vit du sien, c'est-à-dire qu'actuellement, nos ressources financières sont constituées à presque 99% par les droits d'écolage, c'est-à-dire ce que payent les étudiants pour venir étudier. Le reste est constitué des cotisations des membres, de quelques dons et legs que nous recevons.
Quels membres ?
Les membres de l'association, les familles, les adhérents de l'association qui versent chaque année une cotisation, qui de temps en temps aussi font des dons. Et nous recevons aussi une aide non monétaire de la part de la ville du Havre, dont je parlais il y a un instant, et surtout du département de la Seine-Maritime qui nous aide beaucoup aussi en termes de logistique, de soutien. Et nous sommes assez contents justement à cette occasion, puisque nous avions commencé tout à l'heure en parlant justement des Normands qui se promènent un petit peu partout, de relayer toutes les informations, puisque les archives, les musées de la Seine-Maritime sont aussi nos partenaires et que nous exposons toujours les affiches, les documents qui sont nécessaires à la connaissance de l'histoire de notre région.
Oui, parce que vous avez beaucoup de partenariats, en effet, avec ces institutions culturelles, mais aussi donc avec... je crois, avec des entreprises.
Oui, un certain nombre d'entreprises ont décidé de nous confier la scolarité en français langue étrangère de leur cadre étranger. Aujourd'hui, donc, le bassin d'emploi de Rouen est encore très actif et nous accueillons encore beaucoup de gens qui viennent un petit peu de tous les pays du monde et qui viennent aussi apprendre le français chez nous, tout en travaillant dans les entreprises.
Et puis, vous avez un autre projet vraiment intéressant, c'est un développement en Afrique. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors maintenant, quelques années, à la suite d'une rencontre, donc, nous avons pu approcher un pays très très pauvre, qui est le Zimbabwe. Et l'un de mes collègues et amis était le directeur de l'Alliance française d'Harare autrefois. Et grâce à lui, grâce à une visite que nous avons effectuée sur place, nous avons pu constater combien ce pays était intéressant. Et donc, pays anglophone, puisque c'était l'ancienne Rhodésie du Sud, au milieu d'un monde totalement anglophone, mais qui a quand même aussi un certain désir de France. Alors ça, c'est un projet que je
ça,
caresse.
Ça, c'est étonnant parce que, d'abord, actuellement, ce pays est absolument meurtri par le choléra et par son système politique, comme on sait. Donc, il s'éveille à la culture française ou à la langue française.
Alors, il y a toujours eu deux alliances françaises au Zimbabwe depuis très longtemps. Une qui se situe dans la capitale Harare, ancienne Salisbury, et l'autre qui se situe à Bulawayo, dans l'ouest du pays, à la frontière du Botswana. Et ces deux alliances ont toujours fonctionné de façon importante. Et donc, par le biais de cette alliance, nous avons rencontré des enseignants sur place qui enseigne le français, bien entendu, vous pouvez imaginer, avec des moyens quand même très
oui,
limités. Mais quand même, il y a encore une étincelle de français là-bas. Et donc, nous avons un projet maintenant pour justement...
Pour faire des échanges.
À tout le moins, faire venir un petit peu des gens. Donc là, nous sommes plutôt en recherche de financement par rapport à ces projets-là. Ce n'est pas complètement concrétisé.
Ah oui, parce que là, il ne suffit pas de faire quelques visites dans la campagne normande, mais là, ça demande évidemment d'autres moyens et qui serait donc un partenariat avec l'Alliance française sur place et qui implique un peu les pouvoirs publics, j'imagine.
C'est un petit peu le sens des dossiers que nous avons déposés au niveau des fonds d'aide micro-régionaux à la région de Haute-Normandie.
Ah oui. Et le ministère des Affaires étrangères ne participe pas à cette entreprise ?
Je crois que le ministère des Affaires étrangères participe surtout à tout ce qui concerne l'Alliance française de Paris. Et pour des opérations comme celle-ci, qui sont des opérations plus ponctuelles ou plus libres, finalement, nous n'avons pas sollicité de...
Peut-être pas vous, mais l'Alliance française, j'imagine, à Harare, doit avoir des relations avec le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre lors du colloque, puisque nous avons entendu un représentant des Affaires étrangères et qui m'avait semblé participe beaucoup au fonctionnement des alliances françaises dans le monde, peut-être pas en France,
Ah oui, l'étranger. Oui, c'est effectivement le rôle du ministère que d'avoir un œil bienveillant.
Et de détacher un personnel. C'est un projet en évolution.
Oui, oui, pour le moment, nous continuons pour le moment à maintenir des liens avec tous les enseignants et toutes les écoles que nous avons rencontrées. Avec d'autres qui viennent même se joindre, puisque actuellement il y a même des pays limitrophes qui aussi rejoignent notre système de correspondance en ligne. Donc nous espérons vraiment pouvoir développer un petit peu.
Est-ce que l'Internet est un peu développé là-bas au Zimbabwe ?
Alors l'Internet est développé autant qu'il y ait l'électricité pour faire fonctionner. C'est un pays dans lequel, effectivement, la pauvreté est redoutable. Et vous avez parfois l'eau et l'électricité en même temps, mais pas toujours.
Non, c'est une triste situation.
Je me souviens de cours à l'Alliance française de Bulawayo, où le directeur, qui est un jeune homme absolument extraordinaire, Fabien, avait acheté sur ses deniers des lampes à batterie qu'il rechargeait. Dès qu'il y avait du courant, il les branchait et quand la lumière s'arrêtait, les batteries prenaient le relais pour donner une petite clarté dans les classes. Donc quand vous imaginez que là-dessous, vous écrivez avec sur un tableau, mais que les étudiants n'ont pas de lumière au-dessus de leur cahier, c'est un tout petit peu compliqué.
Oui, et ça, c'est seulement un tout petit aspect de toute la situation, oui. Mais ça nous mène un peu à la crise économique. Est-ce que, j'imagine qu'elle est passée aussi par la Normandie, est-ce qu'il y a une conséquence éventuelle dans votre fonctionnement ?
Actuellement, ce que nous ressentons, c'est un tassement des inscriptions. C'est-à-dire que nous avons pour le moment plutôt l'impression que les étudiants potentiels reculent le moment de s'inscrire. Nous étions habitués à avoir des inscriptions entre 6 et 3 mois à l'avance. Maintenant, nous avons aussi des inscriptions au dernier moment, c'est-à-dire pratiquement le matin pour commencer. Le lundi, ça arrive relativement fréquemment. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est que nous commençons tous les lundis, c'est-à-dire que chaque étudiant qui arrive peut venir un lundi matin et puis
un cours.
Voilà, être accueilli dans un cours. Nous lui faisons passer un test de niveau le lundi matin et puis il se retrouve dans sa classe très vite après.
Cher Dominique Vac, vous avez ici l'occasion rare de faire un vœu en public, c'est-à-dire d'exprimer vos souhaits les plus forts, les plus intenses, et que le monde entier pourra donc entendre par voix de notre web radio. Alors, voulez-vous nous confier vos souhaits les plus forts, peut-être quelques secrets pour l'avenir de votre Alliance française, bien sûr?
Je dirais que pour l'avenir de notre alliance, mais aussi de tous les gens qui partagent la culture, il ne faut pas se désigner des ennemis. Il faut simplement peut-être se dire qu'on se fixe un but positif et on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, avec le sourire, la bonne humeur, l'enthousiasme. Et je crois que comme ça, peut-être que ce qu'on appelle la crise en ce moment, puisque nous sommes maintenant en mars 2009, aura une chance d'être moins forte que ce que certains veulent nous prédire.
Qu'il y ait beaucoup d'esprit de l'Alliance française qui se diffuse dans le monde. Malheureusement, on arrive au terme de notre entretien, mais cela me fait penser à une très jolie évocation de votre secrétaire général, Jean-Claude Jacques, qui parlait de l'Alliance attitude et que c'était une question de cœur. Il y a une relation de cœur et ça, vraiment, on le sent à chaque fois.
J'en suis vraiment persuadé. Je crois vraiment, encore une fois, bon, c'est quelque chose qui est répétitif, mais qui me tient énormément à cœur, c'est de comprendre combien les étrangers ont du désir d'être avec nous, de partager notre langue, notre culture.
Oui. Mais aussi dans le sens inverse, j'ai lu dans une brochure de l'Alliance française, un étranger accueilli est un ambassadeur.
Bien sûr.
Alors, ce n'est pas du Platon, ce n'est pas du Montaigne ou du Voltaire, mais c'est de l'Alliance française.
Bien sûr. Mais oui, je suis absolument convaincu que c'est vrai et que ça sera de plus en plus vrai.
Oui. Dominique Vac, un grand merci de nous avoir présenté avec autant de passion votre activité à l'Alliance française de Rouen, qui comprend donc aussi maintenant cette antenne au Havre. Félicitations pour cette initiative. Et vous savez qu'à Canal Académie aussi, nous sommes inspirés par la même passion de diffuser la culture française dans le monde. Donc nous partageons ce lien de cœur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.